Sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. Vous écoutez La Méridienne et il est encore temps de vous souhaiter une bonne année puisqu'on a tout le mois de janvier pour le faire. Avec moi aujourd'hui en studio, j'ai le plaisir de recevoir trois invités qui représentent le service de santé universitaire. Nous allons parler aujourd'hui, si je ne m'abuse, de la prévention suicide. Alors je salue tout de suite Axel qui est étudiante relais santé. Bonjour.
Bonjour.
Et je salue également Marine, qui est interne en psychiatrie. Bonjour.
Bonjour.
Et Christine, infirmière, nous rejoindra rapidement. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs ce qu'est le SSU, comment on y accède et toutes ces choses indispensables?
Alors, le SSU, c'est le service donc, de santé universitaire. Il y a en fait au sein du SSU différents professionnels de santé, aussi bien de la médecine générale que certains spécialistes, comme on peut avoir également donc des psychologues, également des psychiatres, même s'ils sont là moins fréquemment, il y a la possibilité également donc de les voir. On a également donc de la prévention avec un dentiste qui vient de temps en temps. Il n'est pas de manière pérenne au SSU, mais il y a des actions qui font que vous pouvez être amené à le rencontrer. Il y a également d'autres actions de prévention, toujours dans ce volet préventif concernant la prévention aussi des troubles auditifs. C'est en fait un centre de santé qui est assez accessible pour tous les étudiants de tous les pôles universitaires. Donc peu importe en fait la division dans laquelle vous êtes, tant que vous êtes étudiant à l'université de Tours, vous avez le droit donc d'aller dans ces services. Vous pouvez les joindre par téléphone et également par mail. Ils sont très à l'écoute et en effet, vous pouvez même vous rendre sur place, donc aux 60 rue du Plat d'Étain à Tours, pour prendre rendez-vous.
Alors, comment ça se passe? Comment on fait pour payer? De quoi on a besoin pour aller au SSU?
Alors, on a besoin de sa carte étudiant et de sa carte vitale. En fait, on paye, mais il n'y a pas d'avance de frais. Tout se fait donc par la carte vitale et la carte étudiant que vous avez juste à présenter ainsi que demander donc quel médecin professionnel vous souhaitez voir. Il y a également les infirmiers qui sont présents et qui assurent une permanence d'écoute. Cependant, ils sont ouverts donc de 9h voire 8h du matin à 17h.
Et alors si certains se disent « mais moi j'ai pas de mutuelle », est-ce que c'est un problème quelconque ?
Non, c'est pas un problème. Il peut également y avoir donc des aménagements. Alors en ce qui concerne la mutuelle, parce qu'il n'y a plus de mutuelle depuis 2 ans à peu près généralisée pour les étudiants. Mais si ça pose un problème, etc., vous pouvez vraiment en parler avec les secrétaires présents sur place et les médecins également. Ils feront tout pour vous aider et essayer de trouver un moyen de correspondre à vos besoins.
Et alors, pour les étudiants étrangers, pour le coup, on n'a pas forcément de carte vitale
Alors, les étudiants étrangers, ils ont des formalités à faire justement pour avoir un substitut de carte vitale, mais ça ne les empêche en aucun cas de bénéficier également des soins de santé, etc. Il faut juste se présenter avec les papiers qu'on leur demande, qui sont l'équivalent du substitut. Ils n'ont qu'à juste se présenter à l'accueil, montrer ce papier en plus de leur carte étudiante et des autres formalités, et ça devrait bien se passer.
Voilà, alors peut-être avant de commencer cette émission sur la thématique de la prévention suicide, peut-être que vous voulez rappeler à nos auditeurs quel est votre rôle chacune dans ce service de santé universitaire. Donc Axel, on a compris que vous êtes étudiante relais santé depuis 2 ans, je crois.
Oui,
donc,
c'est ça.
Avant de donner la parole à Marine, qui est interne en psychiatrie, est-ce que vous voulez nous expliquer quel est votre rôle?
Eh bien, mon rôle, c'est de faire de la prévention, justement. Donc ça fait partie de tout le volet préventif. Et c'est un système dit de reconnaissance par les pairs. Donc je suis moi-même étudiante en parallèle. Et en fait, je mène donc diverses actions avec mes collègues. On est divisé en fait en 3 divisions. Il y en a qui sont spécialisés dans tout ce qui concerne l'addiction, d'autres sur tout ce qui concerne la santé vie affective et sexuelle. Et moi, donc, c'est dans la division bien-être. Donc, on anime divers ateliers qui permettent en fait aux étudiants d'être au courant de ce qui se passe et de leurs droits en matière de santé, ainsi que de toutes les activités qu'ils peuvent avoir. auprès du SSU, donc tout ce qui concerne donc le fait qu'il existe une diététicienne, distribuer des guides pour savoir comment bien s'alimenter, parce que bah, quand on est étudiant, c'est pas toujours facile, quand peut-être c'est la première fois qu'on quitte le foyer familial pour une longue durée, d'apprendre à vivre tout seul et s'autonomiser comme ça du jour au lendemain. Il y a également donc tout ce qui concerne notamment, il y a eu récemment des interventions pour le mois sans tabac et également d'autres actions de prévention sur donc les auteurs de sévices sexuels, donc tout ce qui est la prévention du viol et savoir identifier ce qu'est le viol. Il y a vraiment tout un volet très généralisé sur toutes les thématiques liées à la santé afin de rendre ça un peu plus pédagogique et plus accessible en fait aux étudiants qui ont peut-être peur d'aller voir un médecin directement et pour qui c'est plus facile peut-être de s'exprimer à quelqu'un qui a leur âge ou qui vit le même contexte qu'eux au quotidien.
Alors, vous êtes étudiante dans quelle filière?
Moi, je suis étudiante en droit.
Et alors, pourquoi on a envie d'être étudiant relais santé quand on est étudiant en droit?
Eh bien, parce que je pense que c'est complémentaire de manière nécessaire. C'est-à-dire que la santé, c'est quelque chose qui, comme on dit, on a peut-être éloigné, ne nous paraît pas vraiment proche. Mais je pars du principe que le droit, ça touche à tout. Et qu'en matière de santé, quand on est jeune, on a toujours tendance à se dire que c'est au second plan, qu'on remet tout à plus tard. Mais je pense que c'est un défaut parce que dans la vie, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Il n'y a pas d'âge pour se sentir pas bien ou pour tomber malade. Et je pars du principe qu'il est nécessaire, en fait, d'être informé de ses droits en tout moment.
Alors, je vais laisser la parole à Marine. Donc, nous avons ici une interne en psychiatrie. Donc, Marine, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour nos auditeurs qui ne seraient pas très au fait des études médicales, comment ça se passe, c'est quoi être interne et pourquoi diable on choisit la psychiatrie?
Être interne, c'est valable pour plusieurs spécialités. Donc, moi, j'ai choisi la spécialité de la psychiatrie. En fait, on commence par faire 6 années de médecine un peu générale. On a accès à ces 6 années d'études d'abord après un premier concours qui s'appelle la PACES. Et puis, au bout de ces 6 années, du coup, qui sont à la fois assez théoriques, beaucoup de théories, et un peu pratiques, notamment pendant les 3 dernières années, on passe un concours et à l'issue de ce concours, on choisit notre spécialité. Moi, j'ai choisi la psychiatrie et puis en plus de choisir la spécialité, on est affecté à une région. Donc, je choisis la région centre. Là, j'ai un cursus devant moi qui va se faire en 4 ans, plus ou moins 5 ans si on choisit une surspécialité. Et donc, pendant ces 4 années, on change de stage à peu près tous les 6 mois et on découvre plusieurs façons d'exercer dans des structures avec des personnes différentes. Soit à l'hôpital, plutôt en ambulatoire, c'est-à-dire en ville. Donc actuellement, je suis en stage au SSU. C'est un stage qui est un petit peu particulier parce que c'est un stage qu'on appelle hors filière. Donc ça reste une maquette de psychiatrie. Et moi, je suis à la fois dans un stage de psychiatrie et de santé publique qui me permet du coup d'accéder à des actions un peu plus globales de sensibilisation et toujours en étant axé autour de la mentale.
Merci Marine pour ces précisions sur la fonction d'interne en psychiatrie en stage au SSU. Je vous propose de faire une pause musicale et ça nous laissera le temps d'accueillir Christine qui vient d'arriver dans ce studio. Nous allons écouter Cathy Berberian Help. Ça me semblait convenir avec notre sujet du jour. On se retrouve tout de suite après dans la Méridienne.
Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in a haze. out every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I never have done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Cathy Berberian, Help, sur Radio Campus Tours dans la Méridienne. Alors, voici que notre troisième invité est arrivé. Bonjour Christine.
Bonjour.
Alors, en un mot, vous êtes infirmière au service de santé universitaire. Avant d'enchaîner sur cette émission consacrée à la prévention suicide, est-ce que vous voulez en quelques mots nous rappeler quelle est votre fonction dans ce service de santé universitaire ?
Alors bien sûr, je suis infirmière, donc depuis longtemps maintenant à l'université. C'est un rôle qui est, où je retrouve toute l'essence de mon métier d'origine, avec ce fameux rôle propre des infirmières, et où nous avons un rôle très polyvalent, en fait. Hein. Le SSU, je pense que vous en avez déjà peut-être un petit peu parlé, accueille les étudiants dans différents domaines, hein, de spécialité de soins, spécialité ou pas d'ailleurs, hein, tout ce qui concerne leur santé physique, psychique, sociale aussi, hein, puisque nous avons des assistantes sociales. Et donc je dirais que l'infirmière, elle est un petit peu au carrefour de tout ça, puisque nous consacrons une grande partie de notre temps à accueillir l'étudiant en première intention, quel que soit le motif de sa venue. Nous allons l'écouter et puis l'aider à s'orienter dans ce qui nous semble ensemble, lui et nous, le mieux pour sa santé.
Merci à vous Christine pour ces précisions. Alors le sujet du jour, je crois que c'est Axel qui va nous le présenter.
Alors on commence par quelques informations qui sont donc chiffrées. Donc c'est que le suicide est malheureusement la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route chez les 15-24 ans. C'est également une cause de mortalité première parmi en fait les 25-34 ans. Donc on voit que les jeunes ne sont pas du tout épargnés par cette thématique. On sait également qu'il y a une tentative tous les 4 minutes en France de suicide, ce qui représente 10 000 suicides par an en France. Il y a un numéro d'ailleurs national à ce propos qui est le 3114 et c'est un numéro gratuit accessible 24 heures sur 24 partout en France. On sait également qu'il y a donc une définition en fait de la crise suicidaire, définition que mes collègues vont vraiment mieux étayer parce que celle que je vais vous donner est un peu basique. C'est qu'en fait le suicide, elle paraît comme être la seule solution pour les personnes qui commettent des tentatives. C'est une personne qui est en général en détresse et en fait ça a un effet de spirale et un entonnoir en fait. C'est un certain nombre en fait de solutions qui en fait ne semblent pas être visibles auprès de la personne qui se trouve dans cette situation. C'est une sensation de trop-plein, de vide et de solitude en fait qui fait que la personne, elle ne pense pas pouvoir se sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Et ça semble en fait être la dernière alternative pour la personne concernée. Et c'est en fait une personne qui paraît aller mieux n'est pas nécessairement sortie d'affaire. Et ça, c'est ma collègue donc interne en psychiatrie qui, je pense, est la plus habilitée à en parler.
Ouais, en effet, globalement, Axel a très bien résumé ce qu'est la crise suicidaire. J'aurais pas grand-chose à ajouter sur la définition, mais oui, c'est une crise psychique qui a lieu dans un contexte de vulnérabilité dans laquelle on voit émerger des idées suicidaires qui viennent en fait de plus en plus présentes, de plus en plus précisées au fur et à mesure de la crise. Et donc on s'imagine bien que derrière, il y a un risque majeur de passer à l'acte et de se suicider. Et donc pour reprendre ce qu'Axel disait, en effet, ça apparaît au moment où les ressources adaptatives de la personne sont complètement épuisées et les mécanismes d'ajustement qu'elle aurait pu trouver un petit peu au début de la crise, elles sont finalement dépassées. n'y a plus vraiment d'alternative qui est envisagée. Et en fait, le suicide apparaît comme l'unique solution qui permettrait de sortir de l'état de crise dans lequel la personne se trouve. Voilà. Globalement, c'est à peu près ce que tu disais, Axel. Après, là où on peut peut-être s'interroger, c'est plutôt sur quand on est un proche qui fait face à une personne, un ami qui a des idées suicidaires, comment on peut réagir. Je pense qu'il y a deux grandes étapes du coup qui sont importantes. Il y a d'abord l'écoute plutôt passive, c'est-à-dire accueillir le mal-être de l'autre, être là présent, sans jugement, lui laisser un espace de parole. Et puis dans un deuxième temps, peut-être une position un peu plus active, avec vraiment l'intention d'interroger la personne sur, globalement, est-ce qu'elle a envie de mourir, est-ce qu'elle a envie de se suicider, est-ce qu'il y a un scénario qui est mis en place, est-ce qu'elle a déjà fait des lettres d'adieu. Vraiment, évoquer les idées suicidaires sans en faire un tabou et aller interroger la personne qui en souffre.
Alors moi j'ai quelques questions. Qu'est-ce qu'on peut appeler un contexte de fragilité? Peut-être qu'il est différent selon les personnes.
Alors le contexte de fragilité, en effet, il y a des causalités qui sont assez multiples. Il y a des fragilités biologiques, des fragilités psychologiques, des fragilités sociales. C'est un tout. En fonction de la personne, il y a plus ou moins un domaine qui est touché. Donc la fragilité biologique, on s'imagine que peut-être qu'il y a une maladie psychique qui est sous-jacente, un épisode dépressif, des troubles anxieux, une fragilité un peu plus sociale, c'est-à-dire un milieu social qui est peut-être un peu touché, avec peu d'étayage, une fragilité au niveau familial, au niveau de l'environnement qui accompagne la personne. Et puis le troisième point qu'on avait évoqué, c'est la fragilité psychique, donc avec des comportements, des émotions, des cognitions qui sont altérées. Et donc voilà, il n'y a pas une cause aux idées suicidaires. Vraiment, il faut voir ça comme un tout, avec plein de facteurs qui viennent s'entremêler et jouer ensemble.
Alors ça veut dire aussi peut-être que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes conséquences. Ça veut dire qu'un coup du sort, quel qu'il soit, ne va pas forcément induire une envie de suicide selon la personne.
Exactement, on est tous différents et on est tous plus ou moins sensibles à certains facteurs. Et quelqu'un qui va être exposé à quelque chose ne va pas forcément développer des idées suicidaires en fonction de son histoire de vie, de son fonctionnement. Donc on ne peut pas identifier une cause aux idées suicidaires, on va plus ou moins réagir de façon différente.
Et alors une dernière question, pardon, avant de vous laisser poursuivre le déroulement que vous aviez prévu, mesdames, c'est de dire, est-ce que le suicide, c'est forcément l'aboutissement malheureux, entre guillemets, d'un, pardon, d'un long cheminement, ou est-ce que ça peut être immédiat face à quelque chose d'insupportable?
Alors ça peut être en effet... Ça peut être plutôt impulsif. Les profils qui vont passer à l'acte de façon assez impulsive, sans vraiment qu'on ait accès en amont à des signes qui pourraient faire penser à un moment, comme on en évoquait tout à l'heure, de vulnérabilité. Et puis ça peut être aussi un processus qui peut être plus long. L'aboutissement d'une crise psychique avec, comme on évoquait tout à l'heure, les moyens d'adaptabilité, les ressources extérieures qui sont trouvées au début de la crise, qui finissent par s'épuiser petit à petit. Et la crise, le suicide devient vraiment l'aboutissement d'un long processus psychique de souffrance.
Oui, je reviens à ce que tu as un petit peu abordé, Marine, la question un petit peu du tabou. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un réel frein, très souvent, pour avancer dans l'accompagnement des personnes suicidaires. Bien entendu, le suicide est quelque chose de terrible, hein, d'extrêmement... difficile à aborder a priori. Or, il y a des clés, hein, il y a des choses à dépasser un petit peu qui vont permettre de découvrir que on peut remettre en place un lien avec la personne. Je dis remettre parce que, en effet, dans le contexte d'une crise suicidaire, et tu m'arrêteras, Marine, si tu as ajouté des choses, dans le contexte de la crise suicidaire, Axel a très bien montré cette notion d'entonnoir. Hein, la personne, elle est dans une vision de plus en plus rétrécie vers cette unique solution qui est la solution. Et voilà. Et du coup, dans cet entonnoir, elle se coupe petit à petit de tout lien. Voilà. Et cette notion de lien, c'est vraiment la question fondamentale qui va permettre de désamorcer probablement cette crise suicidaire en cours. Et donc le tabou, il intervient très souvent. On entend ah oui, non, mais je vais pas lui parler du suicide ou lui demander s'il a l'idée du suicide, sinon c'est sûr je vais le précipiter dedans. Ça, c'est quelque chose, une idée à démonter absolument, hein. C'est quelque chose qui est une idée fausse, en fait, qui est une idée erronée, hein. Au contraire, on va rentrer dans son processus mental, hein, on va voilà, et probablement on peut ouvrir une porte dans ce processus. Non, parler de la crise suicidaire à quelqu'un qui est en crise, parler du suicide à quelqu'un qui est en crise suicidaire n'est pas un acte dangereux. Au contraire, c'est le prendre là où il est. Dans son histoire, dans son processus mental, et tenter de l'accompagner vers autre chose.
Et à ce propos, moi j'ai une question, Christine, c'est vers qui renvoyer en fait l'individu qui souffre, parce qu'on sait que le SSU a justement des permanences d'accueil dont tu fais partie au quotidien, donc on peut vraiment accéder à ces permanences, donc jusqu'à 17h au SSU, sur rendez-vous, comme si c'est vraiment une urgence, sans rendez-vous aussi, vraiment le SSU est très disponible, mais il y a en fait un certain parcours néanmoins dans la prise en charge de l'étudiant. Et il me semble que tu es très avisée sur ce projet.
Très avisée, comme toutes mes collègues d'ailleurs. Hein? En effet, bien entendu, nous accueillons, on va dire, le mal-être étudiant. Et nous avons même renforcé cela depuis la crise sanitaire, puisque au SSU, si on reprend un petit peu nos chiffres, hein, qu'Émilie Arnaud nous a présentés dans son dernier rapport d'activité, eh bien, sur l'année 2020-2021, la consultation psychologique, rien qu'avec psychologue ou psychiatre, représente un tiers des consultations spécialisées, et avec 30% en plus depuis le début de la crise sanitaire, sur l'année 2020-2021. Hein. Donc on voit une augmentation de 30% de ces consultations, et cela nous a obligés réellement, la demande nous a obligés réellement à une réorganisation au cours du deuxième semestre de cette année 2020-2021, c'est-à-dire au début de l'année 2021, pour pouvoir essayer de faire face à cette hémorragie. Le terme est peut-être un petit peu fort, mais enfin, cette demande très très forte. Donc, on y répond actuellement, donc avec cette réorganisation, on y répond de différentes solutions. Alors d'abord, il faut savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau infirmier, On est un petit peu en première ligne pour accueillir les personnes qui ont des problématiques de mal-être. Et donc, on a deux possibilités, comme dit Axel, sans rendez-vous, ça on l'a toujours eu, et on a ajouté, depuis la crise sanitaire, aussi des consultations sur rendez-vous, pardon. Qui permet à l'étudiant de ne pas trop attendre dans une salle d'attente où on vient pour tout motif, et puis d'avoir un temps plus long d'écoute qu'avec l'infirmier d'astreinte qui va être obligé de balayer un petit peu plus le problème puisqu'il accueille, dans son astreinte, il accueille toute problématique confondue. Hein, ça peut être de la gynéco, ça peut être de la maladie, ça peut être toutes sortes de choses. Et là, donc, on a balisé des rendez-vous spécifiques d'écoute avec un infirmier. Voilà. Donc, il y a les deux possibilités. Donc, c'est vraiment très, très ouvert. On consacre un temps vraiment extrêmement important maintenant à cet accueil du mal-être. Alors, bien entendu, dans le mal-être, et heureusement, nous n'accueillons pas que des crises suicidaires. Hein, que des personnes en état de crise suicidaire. C'est ce qu'on va tenter d'évaluer. C'est un petit peu notre rôle, là, en première ligne. Et on va voir avec l'étudiant comment s'orienter, donc, par rapport à cette problématique qui, d'un seul coup, l'envahit, très souvent sur le plan émotionnel, et qui l'empêche d'avancer dans sa vie, dans son parcours, etc. On va évaluer un petit peu, et puis là, on a différents cas de figure pour orienter cet étudiant. Donc, soit on va décider ensemble de se revoir au niveau infirmier, hein, de continuer un petit peu à voir comment la personne évolue, voilà. Et puis, sur deux, trois rendez-vous, ça va suffire, en fait, à stabiliser un petit peu une situation, à revenir à un certain état d'équilibre et à continuer sa route en y voyant un petit peu plus clair. Soit on va orienter, alors après on a différentes solutions, on a le médecin généraliste, hein, ne pas oublier en premier lieu. On a bien entendu des psychologues. Un poste a été ouvert en supplément depuis mars ou avril, je ne sais plus, 2021, là. Donc on a 80% en plus de temps supplémentaire. Quand je vous dis qu'on s'est organisé, c'était quand même pas rien. Et l'université nous a donné des moyens pour ça. Donc 80% de temps psychologue en plus, ce qui fait qu'on a actuellement trois psychologues. Malheureusement, ça ne suffit pas. Donc on a recours au dispositif d'État qui a été mis en place par le gouvernement, qui est le dispositif santé psy étudiant. Ce sont des psychologues de ville, qui ont été agréés par l'État et qui accueillent les étudiants spécifiquement pour maintenant 8 séances gratuites. Alors quand je dis gratuite, c'est sans avance de frais, parce que bien entendu, les psychologues doivent être payés par l'État en direct, mais c'est ce principe hein, que nous, on pratique au SSU, qui est pas d'avance de frais, hein, juste la carte vitale. Donc, dispositif santé psy étudiant, ce qui nous ouvre sur le plan psycho encore des champs. Et bien entendu, on a l'orientation psychiatre. Voilà. On a la chance d'avoir le renfort de Marine cette année. On l'apprécie vraiment beaucoup. Elle était venue pour faire de la santé publique. On va essayer de lui en laisser faire un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait tout de suite là. Mais c'est vrai que la consultation psychiatrique nous manque cruellement hein, aussi. Pourtant, des vacations ont été là aussi ajoutées depuis cette rentrée. On a encore plus de temps psychiatre. Mais bon, croyez-moi, on remplit actuellement tous ces créneaux et on a encore de l'attente. Alors, on a mis ces consultations sur rendez-vous infirmières. Donc, pour faire 2-3 séances avec l'étudiant pour voir comment, voilà, si ça se stabilise ou pas. Et puis, on a aussi la possibilité de continuer un suivi au niveau infirmier en attendant le fameux rendez-vous psycho ou psychiatre. Hein. Parce que on est quand même, là, on est à un petit peu plus d'un mois, je crois, pour les psychologues. Hein, ce qui n'est pas trop mal, parce qu'avant les vacances de février, on était à 2 mois. Avant les vacances de Noël, pardon, on était à 2 mois. Mais on est à un petit peu plus d'un mois. Et en attendant, eh bien, on continue, s'il le souhaite, à voir l'étudiant. Souvent, c'est quelque chose d'assez rassurant. On se retrouve régulièrement, on parle, etc. Et puis, ça permet de... Là aussi, d'avancer un petit peu, de se stabiliser, c'est une rencontre qui est balisée, qui est prévue, tout spécifiquement pour cet étudiant. Voilà. Et puis, si ça va très mal, si on est effectivement en état de crise suicidaire très, très déclarée, très avancée, eh bien entendu, on orientera vers une hospitalisation, vers les urgences psychiatriques. Voilà. Voilà un petit peu, je ne sais pas si vous avez tous les cas de figure là devant vous. Voilà un petit peu. Alors le médecin généraliste, bien sûr, est vraiment à ne pas oublier, hein, parce que bien souvent, on fait aussi des orientations à la fois psycho et à la fois médecine G. Bon, sachant que les médecins généralistes, et là, ce n'est pas un scoop que je vous donne, sont un petit peu tous très occupés en ce moment. Hein. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel on... on a recours hein, quand même, on a recours bien entendu, mais voilà, ça va permettre en première intention une écoute médicale, un regard médical, qui va un petit peu rassurer tout le monde aussi, et puis permettre aussi éventuellement un traitement en attendant une éventuelle consultation psychiatrique. Voilà.
Alors, je saisis le micro au vol. Peut-être pour nos auditeurs, voulez-vous préciser qu'est-ce que ça change, une consultation de psychologue ou de psychiatre ?
Peut-être que du coup, je vais intervenir. Oui. C'est vrai qu'on se pose souvent la question. Donc, il faut savoir que le psychiatre est un médecin. Donc, il aura peut-être un regard plus médical à apporter sur la situation. C'est une approche qui est très complémentaire. Là où le psychologue va apporter une aide plutôt psychothérapeutique, le médecin va pouvoir allier les médicaments, la psychothérapie, et puis surtout, par sa formation, il va pouvoir éliminer ce qu'on appelle les diagnostics différentiels, donc c'est-à-dire d'autres diagnostics, par exemple des examens complémentaires, je pense à de l'imagerie ou des examens biologiques, c'est-à-dire des prises de sang, par exemple. Donc il faut voir ça comme une approche complémentaire. Et puis, l'un peut travailler, l'autre peut travailler, les deux peuvent travailler ensemble sur un même patient, par exemple. Et ça répond un peu à votre question.
Ça veut dire que c'est pas le même travail. Du coup, c'est pas forcément, c'est difficile à comparer parce que c'est pas les mêmes compétences ni la même façon de faire.
Oui, c'est ça. C'est un cursus qui est différent, donc une vision et une façon de voir la chose qui est peut-être un peu différente. Mais il y a beaucoup d'échanges qui se font entre psychiatre et psychologue pour pouvoir avoir une vision globale du patient et une approche assez complémentaire.
Alors une autre chose qui peut peut-être retarder certaines prises en charge, c'est de se dire « mais alors si je vais voir un psychologue ou un psychiatre, c'est parce que je suis fou ». Alors, peut-être je vous vois hocher de la tête, mesdames. Peut-être que c'est une crainte que vous entendez souvent.
En effet, je pense encore plus la vision psychiatrique du problème. Peut-être qu'on a encore en tête les images des asiles que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont connues. Maintenant, c'est quelque chose qui est différent, qui a évolué. La folie, c'est un terme que nous, on n'utilise pas en psychiatrie. On a des diagnostics médicaux, des prises en charge médicales. Et il faut voir ça comme vraiment des maladies, des choses à soigner, comme si on allait voir son médecin généraliste régulièrement pour un diabète. Voilà.
Alors, si je peux me permettre de rebondir, parce qu'en effet, on a dans ce travail d'orientation, on a cette question des représentations un petit peu hein, sur le psychologue, sur le psychiatre, etc. Et j'ai envie d'ajouter, on a la représentation de l'étudiant, mais on a aussi la représentation de sa famille, de ce qu'a véhiculé l'histoire familiale. Et puis, voilà, et tout ça, ça vient un petit peu se conjuguer. Donc, ce qui est important, c'est de retrouver dans ce cas-là, bien entendu, dans le plus grand respect de l'histoire familiale et des représentations de départ familial. Ce qui est important, c'est de retrouver le regard de l'étudiant lui-même, encore une fois, et de faire travailler un petit peu cette représentation vers quelque chose de, voilà, comme l'a dit Marine, de plus un regard simplement médical sur une souffrance, en fait. Parce que on parle de quoi depuis le début ? On parle de souffrance. Hein ? Voilà. Donc, voilà. Bon. On a un petit peu tous les cas de figure à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. L'histoire d'un psychiatre, c'est pour les fous. Oui, on l'entend encore, mais c'est vrai de moins en moins, quand même, je trouve. Et alors, on a des étudiants qui arrivent avec l'idée précise d'aller voir un psychologue, là où c'est peut-être pas forcément le plus judicieux. Quelquefois c'est très judicieux, mais quelquefois c'est pas le plus judicieux. Et puis on a l'inverse aussi, d'autres qui veulent absolument un psychiatre. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent un diagnostic. Hein ? Alors, ils se trompent pas sur la question du diagnostic, c'est en effet le psychiatre qui est le plus habilité à donner un diagnostic médical. Mais parfois, on est très loin de ce diagnostic, donc c'est... Voilà... Une orientation vers un psychologue peut suffire, entre guillemets, pour ne pas dire être plus judicieuse. Hein, voilà. Donc, on a tous les cas de figure à l'heure actuelle. Hein. On a des pro-psychos, des pro-psychiatres. Voilà. Et puis on a Internet aussi, hein, qui, je pense qu'il faut le dire, parce que ça nous donne du boulot quand même. Hein. On a Internet qui va aiguiller. Alors, parfois, Internet peut être très intéressant, hein, peut déclencher des questionnements qui sont très intéressants. Il ne faut pas, rien n'est tout noir. Mais quand même, ça nous donne du fil à retordre, d'une façon globale, parce que on a tendance, actuellement, à aller chercher tout seul nos diagnostics. Et ce n'est pas seulement vrai pour la psychiatrie, c'est vrai pour tout. Hein. Et c'est un vrai fléau, quand même, hein, sur ce plan-là, parce que... Ça enferme sur quelque chose. Alors je dis toujours aux étudiants, écoutez, c'est quand même pas pour rien que votre médecin a fait plus de 10 ans d'études, hein, et un psychiatre encore plus. C'est quand même pas pour rien. Hein. Je dis ça assez souvent, donc laissons-les faire. Hein, laissons-les faire. Reposons-nous d'Internet un petit peu. Voilà, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'on a on a à découdre là un petit peu autour d'Internet et ces réflexes qui probablement ont quelque chose d'humain hein, en fait. Hein, voilà, mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus.
Mais d'ailleurs, par rapport à ça, Christine, on avait également parlé de la question, même au sein des étudiants, du médicament. Parce que toujours dans le même tabou que psychologue, ça fait ça, psychiatre, ça fait ça, il y a également les gens qui ont peur, qui se disent « Oui, mais ce médecin-là, il donne que des médicaments. » Et je pense que c'est un cliché parce que je vois Marine hocher de la tête. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce point-là ?
Pour répondre à ta question, je vais revenir sur ce que j'évoquais en tout début, sur le modèle biopsychosocial. Donc, on a identifié à la maladie psychiatrique pas qu'une cause, mais des dimensions biologiques, des dimensions psychiques et des dimensions sociales. Donc, l'idée, ça va vraiment être d'agir sur ces trois volets. Donc, on peut agir d'un point de vue psychique sur les croyances, les émotions, les cognitions, l'estime de soi... la gestion du stress. Donc là, ça va être un travail qui va se faire avec les psychiatres, les psychologues, la version un peu plus sociale, l'environnement familial, c'est une vision un peu plus écologique de la maladie. Et puis le troisième versant, en effet, c'est le versant biologique. C'est-à-dire qu'on a identifié des désordres biologiques quand survient une maladie psychiatrique. Donc je pense par exemple à des troubles anxieux, un épisode dépressif. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un équilibre chimique au niveau du cerveau qui est altéré. On a ce qu'on appelle, peut-être que ça va vous parler, des neurotransmetteurs et des petites... Des messagers qui vont permettre d'échanger entre deux neurones une information. Et quelquefois, cette information, elle ne se passe pas bien parce qu'il manque des neurotransmetteurs, il n'y en a pas assez au niveau de ce qu'on appelle la synapse. Donc c'est entre deux neurones, c'est cet échange d'informations. Alors le médicament, il va venir là pour aider à restaurer des circuits informatifs qui fonctionnent mal. Et ça va permettre, d'activer des zones du cerveau qui... du coup, fonctionne pas très bien parce qu'il n'y a pas assez de messagers. Il faut vraiment voir ça comme un tout et il n'y a pas juste le médicament, il n'y a pas juste la parole. C'est quelque chose de global. Et Christine explique très bien, je pense que je vais lui laisser expliquer parce qu'elle a l'habitude d'avoir cette image auprès des étudiants que je trouve très juste, de voir le médicament vraiment comme une béquille, pouvoir continuer...
Oui, c'est vrai. C'est une image que j'utilise assez souvent et qui permet avec simplicité de faire comprendre les choses parce que bien sûr quand on a cet échange, on échange avec quelqu'un qui hein, ça je le redis parce que voilà, c'est quand même important de ne pas perdre ça de vue. Donc en effet, on a souvent un frein par rapport à cette notion de médicament. C'est vrai que quand on oriente vers un médecin généraliste en première intention, c'est souvent l'idée qu'on a derrière la tête de se dire bah non, il faut effectivement une béquille, c'est ce que je dis. Il faut une béquille, ce qui ne va en rien empêcher le travail psychologique de se faire à côté. Hein. Donc, bien entendu, comme la béquille, le médicament ne va pas résoudre le problème. Hein, c'est pas le médicament qui va résoudre les problématiques. Simplement, il va aider, je dis souvent, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux prendre le risque de se casser la figure, de tomber par terre et de ne pas pouvoir se relever ? Ou est-ce qu'il vaut mieux accepter une béquille quand on commence à boiter dangereusement ? Est-ce qu'il vaut mieux accepter une béquille et puis faire un bout de chemin avec sa béquille et puis un jour, la béquille, on l'a là dans les mains, on se rend compte que on ne s'appuie plus du tout dessus et on la laisse de côté en disant « tiens, j'ai plus besoin de ça, je la laisse de côté ». Et puis on continue sa route parce que la fracture est... Et cicatrisé, et guéri, et consolidé. Donc, le médicament, je le vois un petit peu comme ça, et c'est vrai que cette image-là, elle aide à dédiaboliser le médicament. Hein. La crainte qui est souvent, je ne veux pas dépendre de ça, ou alors, quelque part aussi, dans notre imaginaire, ça se traduit peut-être un petit peu par une faiblesse. De médicament, d'accepter. Ah ben non, moi je veux m'en sortir tout seul. Hein, je veux m'en sortir tout seul, je suis grand, je suis fort. Je dis toujours, c'est tout à votre honneur d'avoir envie de vous en sortir tout seul. Mais il y a des moments où c'est plus possible. Hein, c'est plus possible. Et puis derrière, bon, faut pas oublier que quand on travaille à l'université, l'objectif que l'on partage tous les professionnels de l'université, c'est aussi la réussite... scolaire, enfin universitaire, donc on peut replacer ça aussi dans ce contexte-là, savoir que on ne peut plus avoir à un moment donné sa vie sociale et là d'études si on ne dort plus du tout, si on est complètement dépassé par ses émotions, si on ne peut plus respirer comme il faut, si enfin bref tous ces symptômes-là qui peuvent être très très invalidants au bout d'un moment. Voilà. Donc oui, la béquille, je l'utilise souvent devant quelque chose qui effectivement n'est pas rare du tout à l'heure actuelle. Je sais pas, je me demande oui si si cette mouvance écologique n'a pas aussi, n'influence pas, hein, parce qu'on retrouve ça aussi en gynéco, hein, avec la pilule, etc., n'influence pas ça. Voilà. Mais il y a cette notion de non, je dois pouvoir m'en sortir tout seul, quoi. Hein, où il y a des situations pires que les miennes. Donc, moi, qu'est-ce que je suis à côté, quoi. Il y a un petit peu cette notion de légitimité aussi qu'on retrouve très souvent, même dans la consultation, dans l'accès à la consultation psychologico-psychiatrique.
Mais ça peut être aussi, intégrer ce discours-là, de se dire, je mérite pas ces soins, j'en ai pas besoin, il y a des gens qui souffrent plus que moi, de quel droit j'irais demander ça? Ça peut aussi être un écho de ce que dit l'entourage, par exemple, bouge-toi, ou alors, moi, à ton âge, j'ai vécu telle chose, on n'en faisait pas un plat. Et donc là, pour le coup, si vous expliquiez tout à l'heure, parler de la crise suicidaire, ça va pas forcément pousser les gens à passer à l'acte. Pour le coup, ces discours peut-être un peu maladroits, ça peut enfoncer les gens, non ?
Ces discours maladroits, pardon, j'ai pas compris.
Par exemple, de dire à quelqu'un qui va pas bien psychiquement, mais bouge-toi, il y a des choses pires. C'est l'entourage, en fait, qui, voulant bien faire, essaie de relancer les gens, mais malheureusement...
Non, comme dit Marine, la première étape est d'accueillir. D'accueillir la parole de l'autre, de la personne qui souffre, etc., de l'accueillir en la prenant telle qu'elle est, en l'acceptant telle qu'elle est. Hein. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut ne pas être simple, parce que la souffrance peut provoquer une répulsion. Hein. Ça aussi, il y a quelque chose d'un peu humain là-dessus. Et c'est là-dessus que, effectivement, nous, les professionnels, on est un petit peu plus aguerris et à accueillir... accueillir cette parole de souffrance sans jugement. Hein. Après, on peut aussi, après avoir accueilli tranquillement ce qui favorise une mise en confiance, ce que les qui appelleront une alliance, on peut aussi dire, j'ai l'impression que tu te trompes. Hein. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, ça n'est pas un jugement. C'est son propre regard qu'on va essayer de partager. Voilà, tout simplement. Mais bouge-toi, ça, c'est pas très efficace. Enfin, en tout cas, en pleine crise suicidaire, c'est vraiment pas... Voilà. Parce que déjà, la personne se dit qu'elle n'a plus aucune légitimité à vivre. Et là, effectivement, je suis d'accord, on enfonce le clou, quoi.
Et d'où tout ce travail d'éducation qu'on est en train de faire un petit peu autour de l'idée du suicide, pour faire connaître... aux autres ce que c'est vraiment. On ne demande pas aux gens de comprendre vraiment ce que la personne est en train de vivre, parce que c'est peut-être compliqué à imaginer, à comprendre, mais au moins d'accueillir et surtout d'intervenir, parce que maintenant on a des super outils à disposition, des professionnels de la santé qui sont formés, qui sont là pour prendre en charge le patient. Et donc ça passe par l'information, comme ce qu'on est en train de faire peut-être sur toutes ces idées reçues et ces croyances un peu erronées aujourd'hui.
Alors juste une dernière question. Si jamais des étudiants ou des professeurs ou même une famille s'inquiètent sur l'état de santé d'un étudiant, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Est-ce que ces personnes, ça arrive, vous appellent en fait, pour dire là on a repéré quelqu'un qui va pas bien mais qui a aucune envie ou qui ne peut pas, en fait, qui n'arrive pas à demander de l'aide? Comment, pour ses proches, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Alors c'est vrai, c'est très important ça, parce qu'encore une fois, c'est pas facile, hein, d'accueillir de la parole une telle souffrance. Et il faut pas hésiter à s'entourer, se laisser entourer de personnes qui vont vous aider à avancer dans ce lien avec cette personne-là. Donc, bien sûr, nous sommes à l'écoute des personnes qui s'inquiètent pour une autre personne. Hein. Ça peut être un membre de leur famille, tous les étudiants qui ont un membre de leur famille pour lesquels ils sont inquiets. Ils ont été confidents de choses où ils ont observé des comportements qui les inquiètent. On accueille, bien entendu, aussi les inquiétudes des enseignants ou de tout le personnel de l'université. Pour s'interroger ensemble, les aider à avancer dans comment faire maintenant, comment avancer. Hein. Donc, bien sûr, on est là pour ça aussi, pour accueillir tous les proches qui, alors bien entendu, ça peut être un copain de l'université, etc. Ces gens-là, dans leur manque de légitimité, j'ai envie de dire, ont souvent du mal à accéder à la consultation, à se décider à. Et donc les proches ont un grand rôle et c'est dans ce cadre-là que bien sûr les proches, nous allons les accueillir aussi, les écouter, mais aussi les accueillir s'il le faut, parce que tout le monde doit pouvoir se préserver et continuer sa propre route aussi. Voilà.
Et c'est d'ailleurs dans cette démarche qu'on rappelle qu'il y a le SSU, mais pas uniquement le SSU, il y a également plein d'autres structures qui sont faites pour cela. Mais on est à l'université et donc on va faire un rapide récap en ce qui concerne donc toutes les actions qui vont être menées par les ERS dont je fais partie, mais également en fait avec l'aide des psychologues de l'université. Donc en fait le 18 janvier et le 25 janvier, il y a deux actions prévues qui sont en fait des quiz qui vont être distribués aux étudiants. Alors le 18, ça aura lieu au Tanner de 11h à 14h et ça aura lieu le 25 janvier au De Lyon de 11h à 14h également. Et en fait, il va y avoir une distribution en fait de quiz justement sur les tabous et les préjugés qu'on peut avoir, notamment sur la question du suicide, afin, toujours dans cette optique, de lutter contre les préjugés qu'on en a, et également sur en fait, les réels dangers, les comportements qu'il faut avoir face à cette situation. En fait, ces quiz qui vont être distribués, ils ont pour but en fait, de participer comme matériel à une initiative qui va avoir lieu début février, qui en fait est une table ronde avec les psychologues de l'université. Et il y aura donc un temps d'échange pour toutes les personnes, tous les étudiants qui souhaitent vraiment participer. Vous le pourrez en janvier, la date vous sera communiquée prochainement. Donc discutez sur les différents pôles de l'université qui vont être donnés d'ici quelques jours. Donc discutez avec des véritables professionnels sur ce sujet qui touche tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, il n'y a vraiment aucun prérequis. Tout le monde est concerné. Si vous vous sentez personnellement concerné, vous le pouvez également. Mais même si pour vous ça paraît lointain et que vous avez simplement envie de mieux comprendre ou de mieux accompagner les gens, vraiment c'est ouvert à tous. Et donc, comme l'avait dit Christine, et c'est justement sur cela que je rebondis, en effet, on peut être directement concerné par cette thématique, mais on peut également être témoin lointain ou pas. Par exemple, de voir quelqu'un dans sa promo, on sait qu'il était toujours assis tout seul à tel endroit et un jour, il vient plus et on se dit « tiens, c'est bizarre parce qu'en plus, il était dans le groupe de TD, etc. » On peut également, même quand on est extérieur à l'université, donc aller voir des structures qui sont faites pour, parce que ça ne s'arrête pas à l'université, ce sujet. Il y a donc un espace de santé pour les jeunes également, donc l'espace santé jeune qui accueille les gens qui ont moins de 18 ans, parce qu'en effet, quand on est à l'université, des fois, on a des responsabilités, parce qu'on a des petits frères, des petites sœurs qui sont au lycée ou en CAP, etc., et qui ont besoin eux aussi d'aide, parce que commencer dans la vie, en fait, il n'y a pas d'âge pour être confronté à la thématique du suicide. Il y a également donc France Victime 37 qui est un point d'écoute, les médecins d'urgence, la maison des ados, le numéro d'écoute qui a donc été dit précédemment que je vais rappeler, qui n'est autre que le 3114, qui est donc un numéro gratuit, accessible 24 heures sur 24 en France métropolitaine. Et enfin le BAPU, qui est une autre structure qui permet d'accueillir.
Alors, on a créé un petit flyer, un petit document qui reprend toutes ces adresses. Ce document, vous pourrez le retrouver sur nos stands. Donc, comme dit Axel, le 18 janvier au Tanner de 11h à 14h et le 25 janvier de 11h à 14h au De Lyon en fac de droit. Voilà. Donc là, nous serons infirmiers ERS présents pour venir à votre rencontre. N'hésitez pas, venez nous voir, quiz ou pas quiz, le quiz est un outil, mais venez nous voir, nous poser vos questions. toutes les questions sont légitimes. Voilà.
Voilà, cette émission touche déjà à sa fin, mesdames, donc il me reste à vous remercier. Donc Marine, interne en psychiatrie, en stage au SSU, Christine, qui est infirmière, Axel, qui est étudiante relais santé. Cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h et vous la retrouverez évidemment en podcast sur notre site. J'en profite pour citer au passage un podcast qui s'appelle Enquête de sens, le podcast dont le titre c'est La psychologie, c'est un truc de blanc, point d'interrogation. Donc podcast en plusieurs épisodes dont voici une description courte. Un jour, mon frère a dit une chose lors d'un repas de famille qui m'a interpellée. La psychologie, c'est un truc de blanc. J'ai décidé de partir de cet événement relativement anodin pour interroger quelque chose de plus général, le rapport des personnes d'origine étrangère à la santé mentale et à la psychologie. Je mettrai le lien vers ce podcast dans le podcast de cette même émission. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes. Et on va écouter pour se quitter Mélanie. Attention, je sors mon très bon accent anglais avec Look What I've Done to My Song. Bonne journée à tous à l'écoute de Radio Campus Tour.
To my song. Look what they done to my song. It was the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, Ma. Look what they done to my song. Ah, oh, look at what they done to my brain. Oh. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they done to my song. I wish that I could find a good book to live in. I wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my song. Ils ont changé ma chanson, Ma. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire, et ce n'est pas bon, Ma. Ils ont changé ma chanson. But maybe it'll all be all right, Ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma. Look what they've done to my song. Look at what they've done to my song, Ma. Look what they've done to my song, Ma. You know that they tied it up in a plastic bag and turned it upside down. Oh, Ma, Ma, look at what they've done to my song. Da, da. La da 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 da. It was the only thing I could do all right, and it's turning out all wrong. Oh, Ma, Ma, look
what they've done to my song.